qui est ce papier.
Moi, je suis pas très doué pour les synthèses.
Parce qu'on va faire remonter par micro, finalement. Donc, c'était Monique, ça, oui.
Alors, est-ce qu'on répond groupe par groupe? C'est peut-être le plus simple, comme ça, pour faire à mesure des questions.
Monique n'est pas là, donc elle est
au courant. Quelqu'un du groupe peut le lire.
Lâchez prise. Ça. Qui est-ce qui a demandé? Il y a une question sur le lâcher prise. On peut commencer par là. Hein. Je ne sais pas quel groupe a utilisé ce. C'est le groupe qui était là. Je pense. Lâcher prise n'est pas être passif. Dans la vie, il y a des décisions à prendre qui relèvent parfois du devoir. Comment trouver l'équilibre entre les deux?
Alors, peut-être qu'il y a d'autres. On peut peut-être, quand il y a une question comme ça, s'il y en a d'autres qui rejoignent celle-là, on peut les dire. Sur le lâcher prise, est-ce qu'il y a autre chose?
On n'a pas posé la question, on va écrire un coup, mais j'ai l'impression qu'il y a, dans le lâcher prise, il y a des interprétations différentes pour chacun. Je crois que je voudrais préciser ce qu'on veut dire lâcher prise, qui n'est pas de lâcheter, parce que lâcher, c'est pas mal.
Lâcheter et lâcher, oui. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que j'interviens sur cette question-là. Maintenant,
bon, on va y aller.
Si on repart de la parole, j'étais parti de l'exemple de l'apôtre Pierre, ce qu'il doit lâcher, c'est son désir de toute puissance. Donc c'est pas le fait d'être actif, c'est pas le fait de s'engager, c'est de s'engager d'une manière, je dirais, où il se met totalement au premier plan, où il pense que tout va venir de sa propre création à lui. Donc c'est pas tellement le fait de s'engager, parce qu'il va devoir s'engager, vous savez, après. Et le Christ lui dit, après la résurrection, un autre te mènera, tu n'iras pas où tu voulais aller. Donc il va évidemment s'engager jusqu'au bout, et il va faire un sacré boulot. On va voir dans tous les actes tout le travail qu'il va faire. Donc c'est pas du tout un inactif ou un passif. Il avance, il crée des choses, il crée des communautés, il va jusqu'à donner sa vie. Mais pas à la manière dont il l'avait imaginé. C'est-à-dire avec son plan de guerre, et c'est son imagination, tout. Non, il est amené à la donner, mais autrement. Donc le lâcher prise, c'est une disponibilité pour réinventer quelque chose, une autre manière, à partir du feu de l'Évangile. Donc c'est pas du tout. Parce qu'on a fait la même. Je me souviens quand le petit livre sur l'école de la fragilité est sorti, on m'avait dit, mais est-ce que c'est un appel à ne plus rien faire, quoi? C'est pas le sujet. C'est pas l'idée de ne plus rien faire, c'est de faire d'une autre manière, avec un autre point de départ. Je sais pas. C'est ce qui me vient.
Alors effectivement, le lâcher prise, Denis dit bien, c'est. Ça a à voir avec la toute-puissance. Il faut savoir que très souvent, ça renvoie à des peurs de lâcher prise. D'abord parce que quand on lâche une prise, on risque de se casser la figure. Et d'où la tentation des sujets à se maintenir dans leur position, à ne pas les lâcher, à ne pas lâcher leur prise sur les situations, pour ne pas choir. À l'inverse, tout à l'heure, je racontais qu'il y a une expérience de philosophie qui consiste à s'en remettre au hasard. C'est-à-dire, s'en remettre au hasard, ça consiste à vous aller dans une gare, vous prenez le 8e train qui part, vous arrêtez à la 7e station, là vous prenez le 3e autobus, vous arrêtez à la 6e station, vous prenez le 2e restaurant, la 3e ligne du menu pour les entrées et la 4e ligne pour les plats principaux. Ce qui effectivement est une remise totale au hasard, qui fait découvrir un lieu, des mets, des gens, etc., que vous n'auriez jamais rencontré autrement. il est évident qu'il s'agit là d'une expérience philosophique qui n'a que l'intérêt d'une expérience. Ça ne peut pas être un modèle de vie. Lâcher prise, ça ne veut pas dire effectivement faire n'importe quoi. Là, on est dans n'importe quoi pour voir ce que ça pourrait donner. Comme un chimiste qui mélangerait tous les produits pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ils risquent tous de se faire sauter à la figure, c'est surtout... voilà. En même temps, il y a toujours aussi le fait que pour faire des découvertes, il faut aller sur des domaines que l'on ne connaît pas. Sinon, on est toujours dans ce qu'on appelle l'inconnu connu. Et comment aller vers l'inconnu inconnu. Mais je trouve que c'est bien de revenir, l'illustration de Denis est plus pertinente encore, car vraiment lâcher sur la toute-puissance, arrêter de se crisper, se rendre disponible pour pouvoir s'engager sur des voies nouvelles, c'est plutôt ça qu'il faut entendre, et ça, il n'y a pas à avoir peur, au contraire, c'est toujours, toujours productif. Il y a toujours un moment où ça va produire quelque chose, et quelque chose qu'on n'attend pas. Mais c'est justement l'intérêt. Si on ne produit que ce qu'on attend, ben on reste dans la puissance de la production.
On peut passer à la question suivante. Qu'est-ce que la plénitude de vie ? Qu'entends-tu par là ? Ha ha ha. La plénitude de vie, là tout de suite, ça fait écho à ce que je vous disais de ce couple dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette dame qui est malade et son mari, qui tout d'un coup revient, sort de son histoire de priorité à droite pour revenir à la densité de la présence à la personne qui est à côté de lui, qui est à sa compagne de vie. Donc, la plénitude, c'est ce qui me vient tout de suite, là, c'est d'être pleinement présent au présent. Alors, évidemment, ce n'est pas une question, justement, uniquement de concentration, comme s'il fallait... Il y a des gens qui me disent, je ne peux pas faire oraison parce que je n'arrive pas à me concentrer, mon esprit part toujours à droite, à gauche, mille pensées, tout ça. La question, c'est de... dans la mesure dans la limite de nos capacités psychiques, physiques, d'âge, de tout ce qu'on veut, de surmenage, tout ça, tout ce que vous voulez, c'est d'être présent à ce que nous sommes, à ce que nous sommes et à ce que nous vivons. Il y a une plénitude qui est adhésion totale au moment, et on rejoint l'éternité. L'éternité, c'est parce que Dieu est présent, Dieu est ici et maintenant. Il y a un livre d'un Quaker qui s'appelle « L'éternel présent », Thomas Kelly, c'est très 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 beau justement sur ce plan-là. Beaucoup de spirituels se rejoignent là-dessus. C'est la plénitude, c'est quand on sort de l'imaginaire, pour arriver à rejoindre la présence dans l'instant, dans le moment, et donc être complètement à ce que nous vivons, en sachant qu'à un moment, tout ça se libérera complètement. Chez les Trinitaires, on dit « Béni soit la Sainte Trinité pour l'éternité ». Ça commence maintenant.
quand même une question que je me pose. Être pleinement présent à ce que l'on vit au moment présent. Quelqu'un qui est dans la souffrance, est-ce qu'on peut dire qu'il est dans la plénitude de vie ? Parce que c'est employé là sur un plan spirituel, c'est pas compris comme ça d'une façon générale.
Je vous parlais de cette sœur qui a la maladie d'Alzheimer. Bon, je crois que... Parce qu'à ce moment-là, la plénitude serait juste dans les moments où tout baigne, quoi.
Non, c'est là-haut.
Non, mais là, on parle de maintenant.
Ouais.
Là-haut, c'est pour plus tard. Mais ça commence maintenant. Mais je ne crois pas qu'on peut dire que la plénitude ne serait que dans les moments d'extrême joie. La plénitude, c'est dans tous les moments. Et justement, c'est le fait d'habiter pleinement le moment. Et d'y trouver aussi dans la présence de Dieu, quand les moments sont intolérables, trouver dans la présence de Dieu la paix, la force au plus profond, de manière à pouvoir vivre chaque moment. Mais il ne faudrait pas penser qu'il y a la plénitude uniquement quand il y a la joie parfaite. Sinon, on n'aurait pas beaucoup de moments de plénitude dans la vie. Hein. Les moments d'extase spirituelle, dans les vies spirituelles, il y en a quelques secondes par vie. Hein. Et encore. Donc la question n'est pas là. Mais dans tout moment, on peut faire l'expérience de la présence. Mais le père Lafrance, Jean Lafrance, qui a fait beaucoup de livres sur la prière, sur la prière silencieuse, l'oraison, tout ça, bon, j'ai connu. À la fin, il avait un cancer du poumon. Et il ne pouvait plus faire oraison parce que c'était pas, il n'avait pas la capacité de se mobiliser sur des longs temps comme ça. Il dit, mais j'arrive plus, c'est plus possible. Alors qu'il avait fait que ça, de parler de ça. Et il priait de manière très simple, chapelet, parce qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il avait fait avant. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il n'était plus dans la plénitude de son être? Je ne sais pas s'il faut... Je ne sais pas, peut-être pas clair ce que je dis.
Alors c'est bien parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé alors avec Denis sur avec des visions différentes, puisque justement l'intérêt c'est qu'on soit différent et d'une certaine façon complémentaire. Hier je parlais de la persona, c'est-à-dire de cette image sociale que nous avons, et puis de cette part d'ombre. La plénitude, le soi, ce que Jung appelait le soi, c'est la somme de l'ombre et de la persona. Ça serait un peu de ce côté-là qu'il faudrait aller chercher de la plénitude. Les personnes qui sont en rupture avec leur image sociale pour aller du côté de leur part d'ombre, d'une certaine façon, s'amputent d'une partie d'eux-mêmes. Les personnes qui sont uniquement dans leur image sociale et qui ne vont pas du côté de leur ombre, s'amputent également d'une partie d'elles-mêmes. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à être justement dans cette plénitude, c'est-à-dire être à la fois ce qu'on est pour l'autre et ce qu'on est pour soi, et que ça soit en harmonie. Alors, on parlait de la présence... Moi, j'aime bien parler de la triple présence, c'est-à-dire être un présent au présent du présent. Ça veut dire quoi? Hier, je parlais de la chose ici et maintenant. Donc, la chose, c'est être un présent, un cadeau. Ici, c'est-à-dire présent et pas absent. Au présent, c'est-à-dire maintenant. C'est-à-dire être vraiment... Enfin, je vous conseille cette méditation autour de la triple présence. C'est-à-dire vraiment être soi là où nous sommes, au moment où nous sommes. Et entièrement. Et ça rejoint la question de Monique, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être soi quand on est mal? Et l'écho que faisait Denis, c'est que, eh bien, oui, il faut, parce que sinon, on va... Alors, évidemment, on peut avoir envie d'être mieux, d'être à un autre moment, que les choses s'arrêtent. On a tous souhaité d'être un autre soi, un autre moment et un autre lieu. Ça, c'est incontestable. Et en même temps, on voit, faites l'expérience, lorsque vous êtes dans des expériences désagréables, d'essayer de vivre ce moment où vous êtes, même s'il est désagréable. Pour peu qu'il ne soit pas quand même trop douloureux. Hein. Chez le dentiste, on a le droit d'avoir envie d'être sorti. Mais des fois, voilà, il y a des fois, ça ne se passe pas comme on veut, on galère dans des embouteillages, etc. Et se dire... Ben, je suis là et je vis le moment, par exemple les embouteillages, de se dire je vis ce moment de disponibilité qui m'est offert. Moi, je sais que je suis intervenu un certain temps en milieu carcéral et vu l'heure à laquelle j'y allais, je sortais, il y avait toujours des embouteillages. C'était magique ces embouteillages. Il faut sortir de prison pour vivre les embouteillages. Hein. C'est en contraste. Hein, d'ailleurs, d'un seul coup, se dire mais... Quel moment de disponibilité à soi, qui était, après avoir fait tous les sas avec les grilles, les bips, les badges et les machins, waouh, les embouteillages, bah, c'est pas mal. Hein, c'est, voilà. Alors c'est toujours en contraste, mais être présent, enfin, être dans la triple présence des embouteillages.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même quand même un discernement à avoir sur l'origine du mal-être qu'il peut vivre à un moment donné, parce que être présent, ce mal-être, il faut l'accueillir, pourtant consentir à ce mal-être qui est présent, mais en même temps peut-être...
C'est... Oui.
Voilà.
C'est-à-dire que, par exemple, prenons la question des soins palliatifs. Bon, on a le droit d'utiliser les soins palliatifs pour être adouci sur certaines, pour des gens. On va dire, il faudrait supporter n'importe quoi parce que c'est bien. Non, c'est pas vrai. Il faut lutter contre le mal. Il faut de toutes les manières possibles. Il faut aller mieux en soi. Tout ça. Mais il y a aussi des choses incontournables. Donc, cette part d'incontournable, c'est sur ce plan-là que je me situais par rapport à la question. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut limiter comme cause de souffrance, il faut le faire, mais il y a une part qui peut nous... Est-ce que ça, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on ne peut plus être en soi? C'est ça le fond de l'affaire. C'est quand on est à la limite. Je pensais au livre, un livre de Julien Green, je ne sais pas si c'est Léviathan, où il était, il aspirait beaucoup à vivre d'autres choses, alors il change de peau plusieurs fois, 6-7 fois il change de vie, et puis finalement il trouve que c'est aussi bien de revenir à la première. Il y a un endroit où il était riche, un endroit où il est ci, un endroit où il était ça, finalement il trouvait que sa première peau, la sienne, quoi, c'était pas mal. Donc il y a cette adhésion à ce que nous sommes.
Il y a, tout le monde connaît le mot utopie, hein, c'est-à-dire un topo, c'est un lieu qui serait idéal. Il y a un terme aussi qui est intéressant, c'est l'uchronie, c'est-à-dire un temps qui serait idéal. C'est un exercice où on se dit, si j'avais pas fait ceci et que j'avais fait cela, si, etc. Enfin voilà, c'est-à-dire vraiment cet exercice de mise de pari en bouteille et qui va nous mener à des situations tout à fait différentes. Mais il faut les explorer à la limite pour pouvoir vivre ce que l'on vit. C'est un exercice intéressant. Moi actuellement, je n'interviens plus en prison, mais je travaille en soins palliatifs. Et avec les groupes, j'ai une formule, j'aime bien commencer, j'en utiliserai peut-être une tout à l'heure, j'aime bien utiliser des formules qui réveillent les gens, parce qu'ils ne les comprennent pas. En utilisant l'expression, si vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est que je me suis mal exprimé, hein, de façon à se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Et donc, une expression que j'aime bien, c'est le désespoir est la condition première du bonheur. Voilà. Donc, notez-la, le désespoir est la condition première du bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur, heure, c'est pas vraiment l'instant, mais le bon à la fois. Alors, heure, ça désigne à la fois le lieu, le temps, enfin, ce que j'avais appelé la présence. Hein, la bonne présence, pour être dans la bonne présence, il faut arrêter d'être dans l'espérance. Alors, je sais que c'est un petit peu en contradiction avec les trois vertus théologales, mais voilà, mais soyons humains, c'est-à-dire être le désespoir, c'est pas la tristesse, c'est arrêter d'espérer autre chose. Quand mes enfants étaient petits, il y avait un truc qui me foutait en rogne, c'est quand ils me disaient « Ah, vivement samedi que !» Alors j'ai dit « Non, on est mercredi, profitons de mardi, profitons de mercredi, profitons... » Et puis de toute façon, samedi va venir et demain sera pas long à être hier. Et voilà, il faut être dans le bon heure, c'est-à-dire dans cette bonne triple présence. Et pour ça, il faut cesser d'être dans l'espoir, donc d'être dans le désespoir au sens où conspombile l'emploi. Hein. C'est pas le désespoir au sens de la tristesse, hein. C'est de... Oui. Voilà, bien, entendons-nous bien là-dessus.
C'est pas espérance et espoir.
Hein?
Donc c'est bien de cette notion-là, ouais, que tu dis. Espoir, ouais. C'est, l'espérance et l'espoir, hein, c'est pas la même chose.
Ouais. Mmh. Oui.
Oui. Garder l'espérance, même si on abandonne certains. Justement, si on laisse. Pour vivre là, dans cette dimension que tu dis, là. Est-ce que, maintenant, on a fini avec ces questions de ce papier-là, est-ce qu'on peut avoir les autres remontées? Enfin, je pense qu'il y en a.
Tiens, Michel.
À l'arrache.
Tiens, merci.
Bon. Dans notre groupe, il y avait trois questions... La première sur la confiance en Dieu. Globalement, nous faisons confiance en Dieu. Mais la réponse de Dieu est toujours longue ou très longue à venir, parfois même une vie. Comment tenir dans le tunnel tant qu'on ne voit pas la lumière?
C'est tout?
Ça y est, c'est fini?
C'est trois questions?
Oui.
Tu dis les autres après? Alors, comment tenir quand on ne voit pas la réponse? Alors, il y a dans l'Évangile une... tout ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. Hein. La question, c'est qu'est-ce qu'on demande, quoi. C'est un peu ce que je vous disais ce matin par rapport aux gens qui viennent pour le service écoute-exorcisme, qui demandent que la vie extérieure change, que le monde change, que tout change en fait, mais, pas, mais la question c'est pas eux, quoi. Donc, et ça, y a pas, on peut pas, Dieu répond pas à ce genre de choses-là, quoi. Parce que tout va partir de ce qui change. Dieu peut changer mon cœur, oui. C'est-à-dire qu'il peut me donner la force, la paix, éventuellement la joie, pour vivre ma vie d'une autre manière. Mais trouver réponse, c'est-à-dire gagner au loto, trouver la personne idéale pour ma vie, tout ça, ça passe pas, ça vient pas de l'extérieur. Si vous voulez, je crois qu'on demande quelquefois à Dieu de régler nos affaires à notre place. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne crois pas que ce soit... Le Seigneur peut nous donner les moyens de vivre notre vie debout et avec l'intelligence, l'énergie, la paix, la joie, le feu nécessaire. Donc je crois que l'action de Dieu se passe à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Le problème, c'est que comme ça peut se passer à l'intérieur d'autres personnes, ça va, c'est aussi à l'extérieur de nous. Mais vous voyez, on aurait tendance à avoir une prière magique qui, à mon avis... Je me souviens de la fille de Françoise de notre fraternité, qui est décédée d'un cancer il y a quelques années, juste après avoir mis au monde son enfant. Et dans le bus, j'étais avec une religieuse à Londres. Elle me dit, c'est scandaleux, on s'est tous mis à prier pour qu'elle guérisse et elle est morte. Alors je suis scandalisé que Dieu n'ait pas répondu. Ben, je dis, ben, c'est scandaleux qu'il ait répondu. Parce que, alors on s'est mis à 50 à prier pour elle, et elle vit, et la pauvre fille qui est toute seule, personne ne prie pour elle, elle peut mourir. C'est quoi cette histoire? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous comprenez ce que je dis? Mais on prie pour que, en solidarité avec la personne qui est malade, pour qu'elle trouve en elle les ressources pour combattre la maladie. Et pour, mais ce n'est pas une prière extérieure qui va faire qu'un Dieu agira. Ben, il dort, Dieu. Alors on va le réveiller, lui dire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce Dieu-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas répondu à la question, peut-être. C'est-à-dire que le temps qu'on pense que Dieu va agir sur l'extérieur et pas sur l'intérieur, on est déçu. Parce qu'il n'agit pas sur l'extérieur. Ah oui, parce que c'est pas la bonne voie.
Donc ça sert à rien de prier pour quelqu'un,
alors. Si, si, ça sert de prier pour quelqu'un. Moi, je crois, c'est un sujet très délicat. Mais quand je prie, moi, par exemple, comme prêtre exorciste, pour quelqu'un, je ne prie pas pour arracher le démon de la personne, je prie pour que la personne trouve en elle la ressource d'être libre. Mais ce n'est pas moi de l'extérieur qui vais lui extirper son diable. Enfin, je suis en solidarité avec elle pour qu'elle se mette debout et qu'elle devienne libre. Donc la prière, c'est d'abord solidarité. Et ce n'est pas sur le cœur de Dieu que j'agis, c'est sur mon cœur ou en solidarité avec la personne qui était à côté de moi. Mais je n'ai pas à convertir Dieu. Quelle idiotie! Vous pensez qu'on va convertir Dieu qui est trop bête pour savoir ce qu'il a à faire? Quelle image de Dieu on a? Quand on dit à Dieu, mais t'oublies les gens qui meurent de faim. Enfin, comment Dieu oublierait les gens qui meurent de faim? Stupidité. Moi, ça me scandalise. Excusez-moi, je m'énerve parce que je n'aime pas qu'on rabaisse Dieu comme ça, en pensant qu'il a besoin de nos conseils pour savoir ce qu'il a à faire. Mais quelle idiotie! Quelle mauvaise image de Dieu! Un Dieu qui est roi fainéant sur son lit, qui ne sait pas ce qu'il a à faire, de temps en temps on réveille, tchou tchou tchou, t'as oublié telle personne. Mon Dieu, quelle misère! Dieu n'oublie personne. Surtout pas nous.